ceng atau bawa lawan aje, ilkat orang atau bawa kaki mampu je. Ramun lihat je umi aman ilkat itu bawa. Mari. Inte maita. Kuiwi, ngetoi nga. Hayo dengu, yenge nanu. Tapi kabo dengu ana. Mari. Jembile boi cengami. Aki doa mari. Mari. Wij ma po toi nga yu. Sangu yenge nanai mari. Mari. Aki doa mkele guna. Bangun cekai gane. Pikir ibu ne mana, idil ma pokai ngano, tangu yang eh turkeyu, hingin mungayu, tangu yang eh leyu mari, tangu yang eh toyo ana, ifei winkul meu ana mari, tangu yang eh leyu mari, tangu yang eh leyu mari. Hakido wa manai mari, hakido wa mananai mari. Chumayu wa mamari ana, kinyanaga elbul mingami kunyiva tuge mari. Piyatile yu anai mari, piyatile yu mari ana. Tiyachima pumeu kaiga, katru melyali yukau, mari. Antungeli yokai ganai, chawakonai mukai nau. Hipiengeli jeli yo, mari. Walukonno lavi yo. Jemaita makewe, hamuayu. Hipiabi yo, antungeli yo mari. Mari. Kuyenge toy ngayo, ayo dengu yenge nano. Mari. Dengu yenge toyeyo. Pil mapur painga, ayo dengu yenge nai. Mari. Chau konai muama. Makewa pinye imapona, makewa manga konalo incho. Pia veyo mari, walukonala veyo. Chuma chikai naranto, yawal ngeli yorume mari. Mari. Amukato wayo ana, hina kinto nge boliyo, kinto menge yaboyo, makewe me wanai mari. Mari, nganen mukai dinge layayo, pieto leyo mari. Mari. Nge layayo kaya na, nge layayo nganen nao, katituwe liyo pasajero, amuto wayo mari. Amuto ayo anai wano mare pinye mapo mari faibale kai kama pukai nga amuto ayo mari dewa ma dangu yenge liu dewa kai nga dangu yenge yu yawan ngato yo anai mari kama po amu ayo mari Rupale nga kuye nai, rupale nga tripanto, kintal balba toa viyo, karta meo kai kimbal patoa yu, chubla yu nga yu, chake che mari, ina kinto ngeli yu anai mari. Taimuno anta kimto ayu, chubla nga yu, chake che mari, walu kai nga avi nga yu, ayu doa ma mari. Taimuno anta eliyu, tanyira ki doa mari. Kanu saire pinye mapo hari malu ayo marip tawa madengo yengelu pati mapo inje marip hey avida tipi
si 106.3 fréquence Paris pluriel vous êtes à l'écoute de Terremoto comme tous les lundis soirs de 21h30 à 22h30 sur FPP et c'est les chroniques du Wal Mapuche comme je vous ai dit tous les mois en compagnie toujours de nos chroniqueurs avec aujourd'hui Sidonie. Ça va Sidonie?
Ça va très bien, merci.
Et il y aura également Tatiana qui va participer avec nous par téléphone. Donc voilà, Ignace aujourd'hui il n'est pas là, mais on le salue également. Et on a comme invité deux documentaristes, Geoffrey et Christophe qui... Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Ah, on t'entend pas beaucoup, vas-y.
Rebonsoir.
Ah, voilà, là c'est mieux. Voilà, bah, en tout cas, qui seront, vous êtes nos invités pour justement parler un petit peu de ce que votre parcours dans le Walmapu qui est le territoire ancestral mapuche. Et ce territoire mapuche, c'est les Mapuche, c'est le peuple originaire du sud du Chili et de l'Argentine. C'est ce qu'on appelle très couramment, comme ça la va vite, les Indiens. Et voilà, en tout cas pour ce qui est cette heure-là, on va commencer par faire, on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé le mois dernier comme grand événement et également les informations de, comme d'habitude, que Tatiana tout à l'heure elle nous dira. Et là, on va commencer avec un petit communiqué public justement puisque le mois dernier c'était la commémoration de Alex Lemoun. Alex Lemoun, c'est un jeune Mapuche, Weichaf, et comme on dit, guerrier, un combattant social, qui est âgé de 17 ans, qui est mort le 7 novembre, le 7 novembre ouais, 2002, et suite à l'attaque justement de carabiniers lors d'une occupation pacifique
de terre,
voilà. Dans une forestière, dans une entreprise forestière qui s'appelle Mininco. Ce jeune-là, en tout cas, la déclaration l'explique bien et ça commence ainsi. À 6h15 du matin, le 12 novembre 2002, après plusieurs jours d'agonie, est mort Edmundo Alex Lemoun. Suite à l'impact d'une balle reçue au milieu d'une violente attaque des carabiniers à l'intérieur du terrain Santa Alicia, propriété de la société forestière Mininco. Edmundo Alex Lemoun Saavedra était un jeune de 17 ans de la communauté Montutui Mapu du secteur Agua Buena, dont la communauté revendiquait le terrain forestier au moment de l'attaque, indigne de la police uniformée. Alex Lemoun fut mortellement blessé le 7 novembre quand un groupe de trois carabiniers tira contre un groupe de Mapuche qui maintenait l'occupation du terrain forestier dans la commune de Ercilla. Alex Lemoun reçut un projectile dans la tête qui lui donna la mort peu de jours après les faits. Le projectile fut tiré par le major Marcos Treuer avec un fusil Winchester chargé de cartouches de plomb qu'il a, d'après sa version des faits, avait utilisé pour contrôler une attaque armée. La mort de Lemoun, victime de la répression pendant la lutte pour les droits territoriaux, a mis en deuil tout le peuple Mapuche. C'est un fait qui a généré une tension extrême dans la zone et une nouvelle offensive politique, judiciaire et policière contre de nombreux dirigeants parmi lesquels beaucoup sont soumis aux tribunaux, sont enfermés et certains condamnés afin d'essayer en vain de désarticuler le mouvement Mapuche. Avec la mort de Lemoun, le peuple nation Mapuche garda une douleur face au départ de celui qui est considéré comme un martyr, de celui qui de sa vie a payé le prix de la liberté et qui anime beaucoup de personnes pour continuer à lutter avec plus de force pour récupérer le territoire qui nourrit la vie d'un peuple. Pour les organisations Mapuche en général, l'assassinat de Lemoun par l'État du Chili a montré le racisme et la violence extrême avec lesquelles le gouvernement a prétendu taire les justes revendications. Ces mêmes voix annoncèrent dans une déclaration « Edmundo, avec le sacrifice de ta vie pour la récupération de nos droits ancestraux, niés par la supériorité raciale cachée dans les cerveaux de ceux qui dirigent un pays qui va apparemment sur le chemin de la croissance, tu as laissé de nos cœurs la force qui commande celui qui a trop soif de justice. » Un an après sa mort, le nom de Lemoun s'assume avec d'autant plus de force et en ces jours se prépare une série d'activités de manifestations tendant à commémorer ce jeune martyr Mapuche dans diverses zones et localités. Il faut rappeler que le tribunal d'Angol décida de soumettre à procès le major Marco Aurelio Truer qui assassina le jeune Lemoun. Suite à une investigation judiciaire et policière en ce sens, laquelle s'effectua sur plusieurs mois dans le cadre de nombreuses protestations de la part d'organisations mapuche et de solidarité au niveau local et international qui exigeaient justice. Cependant, la cour martiale refusa cette démarche et concéda l'immunité au major de carabiniers, qui aujourd'hui marche librement dans les rues, laissant en évidence l'improtection judiciaire à laquelle sont exposés les Mapuches. De même, le 7 août dernier, l'avocat Alfonso Insuza, accompagné de la famille du frère Weichaf et Alex Lemoun, ont sollicité auprès de la Cour suprême que soit nommé un ministre civil de la Cour martiale et que soit réouvert le procès fermé en 2005. La demande ne fut pas acceptée. Cependant, aujourd'hui, 6 ans après son départ, Alex laissa un grand héritage. Le souvenir de ce jeune Mapuche, simple, travailleur et courageux, duquel aujourd'hui beaucoup de frères Mapuche s'inspirent pour travailler la reconstruction de notre peuple, nation Mapuche. Un autre 7 novembre, le vent souffle, le ciel pleure et la terre renaît. Justice pour Alex Lemoun Saavedra, liberté à tous les prisonniers politiques Mapuche, fin des montages judiciaires contre le peuple Mapuche.
Toca, lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca, lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa, venenosa, agua venenosa, agua venenosa. Dos guerreros rozando el suelo, dos ojos negros atentos. Peñi, Peñi, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco, silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro. Un dedo apunta hacia el camino y con un gesto muestro el objetivo predispuesto. En un momento estallará, pero ahora hay que estar quietos. Uso lo aprendido en estos tiempos, reflejos agudos, músculos tensos. Siento cada pelo de mi cuerpo, el tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros, lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, 10 veces venceremos. Convencidos que esta lucha es justa, no nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este mundo con un patrón abusivo y un salario indigno. Y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales, ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho. Pero sigamos con los hechos. El recorrido del camión fue estudiado cuidadosamente. La operación no es un atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos, usurpados en 5 siglos de imperialismo. El empresario maderero es nuestro carcelero. El gobierno es nuestro represor. Ya estamos casi en el puesto perfecto para completar nuestra misión. La sangre del estraro invade mi corazón. Mapuche es mi nación, mi pensamiento es mi acción. Mi dignidad la mecha, prendo fuego, lanzo la botella y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando troncos, radio en la palma de la mano. Somos igual que dos esclavos escapando, rápido, despacio, pero no desesperados. Tranquilos, vivimos en este espacio hace años. Cada árbol del bosque es nuestro aliado. Pasando el primer poste en el camino, oímos gritos de guardias. Los dos llegamos juntos, han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas. Mis venas se llenan de pena, recuerdan las cadenas de los peñi que enfrentan largas condenas. Por pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso, subo al auto, me saco los paños asociados al daño causado al empresario. Un escaño más avanzado en este largo conflicto, heredado desde mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la chucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás vengan a buscarnos. Pero tarde o temprano, mañana será el tiempo de mi pueblo maltratado. Todo lo que Winca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa.
10 barrotes y 4 paredes me separan de mi libertad. Y no caí en estas redes por casualidad, sino por luchar contra las fuerzas de invasión que han ocupado nuestras tierras desde que llegó Colón. Veo la luz y me alimenta el Nehuen. de los guerreros verdaderos que cayeron desde Temuco hasta el Cerro Huelén. Huehuaín Peñi, Huehuaín Lambien. Entre rejas recuerdo cada secuencia del evento, allanamiento en la comunidad. Despierto con los gritos de nuestros niños hambrientos, pero esta vez presiento que no gritan por comer. Es el poder que llega a imponer su orden de mente, sin orden de arresto, pero con complicidad del presidente. Porque este es un frente de guerra desde que los mapuches decidieron recuperar la tierra. Incomunicado, detenido, sin abrigo, mis enemigos aplicando la ley de seguridad interior del estado. Legislación antiterrorista, pinochetista, hace frío. ¿Acaso el hombre vino al mundo para dirigirlo? Porque los Winca quieren dividirlo, rompiendo el equilibrio natural, el ser humano con su entorno y su comunidad. Che, Mapu Nehuen, gente, tierra, fuerza, ven, entiende. ¿Por qué no comprenden que la tierra no se vende? Que todo es de todos y nada nos pertenece. Forestales, transnacionales, convirtiendo el suelo fértil en desierto, plantando el pino, insigne asesino. Aterrorizan niños, desalojan a los míos de sus nidos. Y el gobierno protegiendo inversiones, negociaciones por un lado, por el otro represiones. Cómplice de destrucciones, futuras generaciones pagarán, porque a este paso nada dejarán, nada dejarán. Ayer dictaron mi sentencia, 5 años y un día, la penitencia por haber osado levantarme. Caupolicán, dame fuerzas para prepararme para lo que viene. ¿Cuántas veces puede un solo hombre enfrentar la muerte? Mi gente defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra, la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción, tradición, religión, Mapudungun, Quillatún, Machitún, Jiquillan, Mabun. ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron esa ley que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo? ¿Quiénes son violentos? Ellos son nosotros. ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quién les pidió su dinero y sus enfermedades? Su gobierno y sus empresas forestales. Todo lo que el Winca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa.
Oui, toujours à l'écoute de 106.3 fréquence Paris Pluriel à l'émission Chronique du Wall Mapuche sur RFPP, toujours 106.3. Bon, tout à l'heure, je ne me suis pas rendu compte, mais merci à Tatiana qui nous a rejoint par téléphone. Oui. Qui, justement, en fait, j'avais fait un lapsus par rapport à l'autre émission qui vient, que je fais avec Rodrigo, que c'est Terremoto qui se passe de 21h30 à 22h30. Et cette émission, c'est de 19h à 20h30, voilà. Et rediffusée le lendemain après l'agenda, 12h30. Et voilà. En tout cas, c'est une fois par mois sur FPP. Vous connaissez la fréquence. Alors, ça va, Tatiana ?
Oui, ça va.
Ouais.
Ouais. Mais sinon, c'est des petits incidents qui se passent quand on travaille beaucoup à la radio. C'est pas grave.
Ah, bah, ça fait partie du direct, hein.
Oui, bah oui.
Tout à fait.
Bah oui.
Ouais.
En tout cas, merci d'avoir rappelé ça, le communiqué sur Alex Lemoun, qui nous recontextualise un peu ce qui s'est passé donc en 2002. Ça date déjà, mais c'est toujours présent. Hein. Et donc, apparemment, le mois dernier, donc, vous avez fait en France, à Paris, une commémoration de ce qui s'est passé sur Alex Lemoun.
Oui, bah, c'est vrai qu'en fait, tous les ans, on fait cette commémoration. Sur l'assassinat d'Alex Lemoun, donc ce qui est un peu dommage, c'est que c'est vrai que ça tombe à une période de l'année où la météo n'est pas forcément en notre faveur. Mais en tout cas, là cette année, on a pris l'initiative, en tout cas, d'inviter à une scène ouverte engagée.
D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé où, à vrai dire?
C'était au squat Samplon, à l'espace Samplon qui se trouve à Mairie d'Ivry. Donc, ils nous ont gracieusement prêté leur salle. Donc, voilà, pour, au moins pour pallier aux conditions météorologiques. Et ouais. Parce qu'il faisait quand même assez froid dehors. Mais voilà, du coup, les gens qui voulaient raconter leur expérience ont pu le faire. Ceux qui ont voulu chanter ont pu le faire. Faire de la musique également, dire un témoignage. Enfin, donc,
c'était voilà, à chacun de se réapproprier un peu l'événement. Quoi.
C'est plutôt bien déroulé, je pense.
D'accord.
Mais c'était surtout aussi pour rappeler que Alex Lemoun représente aussi la lutte de son peuple, mais aussi rappeler que finalement la lutte de beaucoup de peuples peuvent se rejoindre également, et c'est aussi une tentative qu'on fait que de faire connaître en tout cas la lutte du peuple mapuche. Donc c'était aussi dans cette optique là.
Ouais.
Donc voilà, mais c'était une expérience assez réussie. Enfin, on espère, enfin en tout cas il y avait un peu de monde, on espère que les fois prochaines il y aura un peu plus de monde et que les gens prendront conscience aussi de ce qui se passe de l'autre côté, en sachant que aussi à côté de soi il se passe énormément de choses. Ouais.
Non, mais c'est clair, surtout c'est que ça se rejoint beaucoup sur la manière de faire, comment est-ce que ces États ils agissent par rapport à tous ces gens qui essaient de vivre bien, quoi.
Ouais,
de vivre en tout cas mieux.
C'est vrai qu'Alex Lemoun, c'est un cas non particulier d'ailleurs, c'est un cas emblématique de ce qui se passe en général au Chili, dans ce qu'on appelle le conflit mapuche, mais c'est aussi cette image-là qu'on prend comme emblème pour rappeler des choses beaucoup plus, comment dire, pour rappeler la répression en gros de l'État chilien envers le peuple mapuche, et puis bien d'autres luttes sociales qui ont lieu en Amérique latine, comme ailleurs d'ailleurs.
Ouais, bien sûr. Et puis derrière Alex Lemoun, il y a d'autres personnes. Enfin, il y a Matir Catrileo qui est tombé il n'y a pas très longtemps. Un an aussi, et d'autres encore, et qui sont tombés non seulement en période de démocratie, mais aussi en démocratie, je vais utiliser le terme de M. Pato, de démocrature, donc, ou de dictocratie, voilà, c'est comme ça qu'il dit, mais c'est aussi non seulement en période de démocratie, mais en période de dictature, donc c'est vrai que c'est un peu toutes ces luttes-là qu'on tend à commémorer chaque année lorsqu'on fait la commémoration de la mort d'Alex Lemoun. Mais voilà, donc ça s'est passé ici en France et ça s'est aussi passé là-bas au Chili, donc à Concepción, à Temuco, à Santiago.
Dans d'autres villes européennes, je pense aussi.
Organiser, alors, il y a une série d'activités. Hein, il y en a qui font des veillées, d'autres qui font aussi des activités un peu similaires à ce qu'on a pu faire ici. Quoi. Donc voilà.
Bah, en tout cas, c'est une manière aussi de pas oublier, de toujours rappeler que ces jeunes-là, c'est des jeunes comme n'importe quel jeune.
Ouais.
Et qu'il y en a eu trop, on veut plus qu'il y en ait, même pas un. Donc c'est un peu aussi ce message-là que de cette commémoration. À ce jour-là, en fait, ce même jour-là. En tout cas, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que même le jeune Johnny Cariqueo, tu vois, c'est aussi une preuve de cette violence policière qui, lors de cette manifestation, il s'est fait mettre en garde à vue, puis après on l'a relâché roué de coups et qu'il est mort d'un arrêt cardiaque deux jours après, je crois. À Santiago, donc ça montre vraiment bien le comment est-ce que justement ces messieurs qui sont là au gouvernement veulent faire taire ce mouvement mapuche qui coûte énormément d'argent. Il y a énormément d'entreprises multinationales, internationales, tout ça qui financent justement ce type d'exploitation là. Afin qu'il y ait, je sais pas, rien que pour citer, rien que l'autoroute qui va transporter les camions blindés de bois, tout ça, il faut de l'argent quand même, il faut de l'investissement pour mettre ce type de méga projet dans un lieu extrêmement rural, montagneux, tout ça.
Ouais.
Et surtout,
ouais,
qu'il y a, par-dessus, il y a des gens qui habitent, tu vois, sur ces terrains-là. Donc,
je crois. On a l'impression que les intérêts économiques passent avant tout, passent au détriment de des populations locales, disons.
Oui, et en plus, en rappelant ça, elle passe au détriment, enfin, les intérêts économiques et puis les intérêts, on va dire, non seulement économiques, mais aussi, on va dire, les intérêts touristiques, enfin, car je vois aussi les intérêts économiques, c'est parce que ça me fait, en fait, ça me fait penser aussi que, bientôt, ce sera le Paris-Dakar en Argentine, enfin, qui vont passer en tout cas par la Patagonie et tout, et que du coup, ils vont aussi passer en plein milieu des terres ancestrales, des communautés, et en plus, enfin, ça avait fait la polémique, en tout cas le Paris-Dakar, parce que régulièrement, il y avait des enfants qui étaient tués sur les routes, des femmes qui étaient écrasées et tout, enfin, tellement c'est un événement fait pour booster l'adrénaline des gens inconscients, quoi.
Ouais, non mais c'est clair, c'est ce truc-là. En plus, tu vois, c'est comme tu dis, hein, là où il est tracé le chemin, c'est exactement là où ils ont leurs futurs projets. Ils vont aller voir têter le terrain, comme on dit.
Ouais.
Ouais, non mais c'est ça, parce que le nombre d'entreprises, parce qu'on parle des entreprises au Chili, mais au Chili, ces entreprises, on va dire. Ils disent que c'est des entreprises nationales parce que ils ont des noms comme Mininco, qui Mininco est un nom mapuche pour faire genre une espèce de corrélation. Ouais, c'est des entreprises qui vont mettre bien les gens, mais au contraire, c'est des entreprises qui sont là uniquement pour détruire et faire que du profit. Et on a vu la contamination que ça fait ces entreprises là à cellulose qui font de la pâte à papier dans les lacs, tout ça, mais par-dessus tout, c'est que ça aide également aussi à tout ce qui est l'Union européenne, les États-Unis, tout ça, à se faire leur propre jeu de domination qui va dominer plus l'Amérique latine, surtout ces territoires-là, où il y a énormément de projets de mines, d'or, tout ça, qui sont là, ils sont signés, ils attendent plus qu'arrivent les grosses machines pour pouvoir et débrayer le chemin, pour pouvoir faire les exploitations. Et justement, ce type d'événements comme le Paris-Dakar là-bas en Chili-Argentine, bah, ça sert exactement pour ça, pour ce type de méthode-là. Voilà.
Et justement, en parlant d'entreprises minières qui font d'extraction de minerais rares, je voulais justement en profiter pour faire la partie info.
Bah oui, t'as des infos.
Justement pour dire là, aux dernières nouvelles, que l'entreprise Benetton, en fait, se met à faire de l'extraction de l'or en Argentine, puisque l'entreprise qui s'appelle Minera Sud Argentina, qui est de propriété de Luciano Benetton, donc qui est le grand fabricant de vêtements, et en fait c'est l'un des plus grands propriétaires de terres d'Argentine. Il est en train d'investir plus de 500 000, il a investi là, plus de 500 000 dollars pour une première partie, pour les premières perforations pour extraire l'or dans la région de San Juan. Et en fait, Monsieur Benetton, Luciano Benetton, il est quand même considéré, c'est un entrepreneur italien qui est quand même considéré comme l'un des plus grands propriétaires, puisqu'il possède à peu près 900 000 hectares dans le sud du pays et dans la province de Buenos Aires. Avec ça, il possède également environ 280 000 têtes de... Ah, comment on avait ça ? Les têtes de d'animaux. Comment on appelle ça?
Les bétails.
Voilà, merci. De bétail. Et c'est lui qui a le plus grand commerce de tout ce qui est de l'industrie de laine, des forestières et l'agro. C'est pas de l'agroculture, c'est quand c'est de l'agriculture de mer.
En tout cas, ça ressemble vraiment, il faut le souligner, parce que ça, c'est, C'est vraiment un scandale de A+, monsieur Benetton qui essaye de s'acheter plus ou moins une image en disant qu'effectivement il est juste là. Il a pris effectivement toutes ses terres pour ses moutons et tout ça. Il se donne un peu une image de quelqu'un qui essaye de donner du travail aux communautés, ouais. Essayer de vivre en harmonie avec eux. Avec finalement, on apprend qu'il a une entreprise qui va extraire l'or de ces terres-là. Quoi. C'est quand même assez scandaleux et assez honteux.
Il
quoi.
Se vante de l'aide qu'il peut apporter en construisant des écoles, en construisant des églises et tout genre de choses. Mais celle-là, c'est le début. Hein. Là, il a fait ce premier investissement pour pouvoir justement extraire ce minerai hautement recherché. Et en plus, par la suite, en fait, c'est une entreprise où il y a eu un investissement de près d'un million de dollars pour pouvoir mener à terme, en tout cas, l'extraction d'or de la région de San Juan.
Ah ouais, mais c'est pour ça qu'ils sont en crise, hein. Ah ouais, mais ils financent des méga projets comme ça.
Ouais.
Et attends, mais les gens là-bas, ils se battent aussi, hein, tu vois. Il y a une forte répression en Argentine. On en parlait justement de même Benetton sur. Il y avait une communauté mapuche qui réclamait les terres là de Benetton, tout ça. C'est un territoire ancestral.
Ouais.
Ah. Non,
en plus, généralement, dans les, comment ça se dit, les noticias,
les nouvelles, ouais.
Quand on parle du conflit mapuche, généralement, on oublie même les populations mapuche. On parle du conflit mapuche comme si c'était un conflit entre des gens armés, des gens, des gros délinquants avec les armes, et des entreprises forestières. Et on n'explique pas vraiment, en fait, d'où vient le conflit et pourquoi ces gens, ces mapuches, sont en train de se battre pour récupérer leurs terres. Je pense qu'on en oublie vraiment le contexte et on fait en sorte que, on va rendre le conflit mapuche, on va rendre le conflit mapuche, on va lui donner une image de lutteur acharné et de terroriste, mais justement parce qu'on oublie de préciser les fondements même de ce conflit-là, quoi.
Tout à fait. Pour continuer un petit peu dans les infos, pour faire écho en fait à la présence de la secrétaire générale d'Amnesty International qui a fait un petit tour au Chili. Donc elle a été présente au Chili avec toute une délégation entre le 3 et le 8 novembre 2008, donc c'était là en début d'année. Donc elle s'est réunie avec des survivants et des familles de victimes de la dictature. Et aussi elle s'est également réunie avec des personnes en fait qui sont victimes en tout cas comment dire,
je crois qu'elle s'est rendue aussi au sein de communautés mapuche,
tout à
dans
fait.
Les prisons
donc elle
mapuche,
a été dans des communautés mapuche
dans les prisons,
notamment je pense qu'on en parlera tout à l'heure
dans
avec
les prisons chiliennes
mais elle s'est notamment rendue à la communauté de Temucuicui où elle a pu s'entretenir avec
des dirigeants.
Avec Jorge Wenchuyan.
Ouais.
Donc eux, ils justifient pleinement la présence de cette délégation sur le territoire mapuche, puisque à plusieurs reprises, l'État chilien a réalisé des violences en fait envers cette communauté, notamment également envers les enfants, puisque plusieurs enfants ont quand même des séquelles au niveau psychologique et au niveau physique pour les violences qu'ils ont pu subir. Donc seulement pour rappeler, mais que Manil Wenchuyan, qui était âgé de 9 jours, il a été intoxiqué suite aux gaz lacrymogènes qui ont été tirés à l'intérieur de son habitation. Patricio Caipul, qui a 13 ans, à trois reprises, il a été frappé et interrogé par la police. Bien sûr, sans aucune présence de ses tuteurs légaux. Et Antulemun, qui est âgé de 7 ans, lui, il a perdu 2 doigts pendant un contrôle policier.
Il a perdu deux doigts
sur un bus, sur les bus scolaires.
Ah, 2 doigts, il a perdu.
Ouais, il a perdu 2 doigts. Il était âgé de 7 ans.
Ah ouais.
Faut rappeler aussi que plusieurs mères et femmes, elles doivent survivre seules économiquement, puisque leur mari ou leur frère ou leur père
sont en prison,
beaucoup sont soit clandestins, soit prisonniers politiques. Et Et les personnes âgées également sont également traumatisées, puisque depuis leur enfance, en fait, ils ne vivent ils ne subissent que la maltraitance et la violence de la part de l'État chilien, quoi. Donc voilà, donc en tout cas, la commission de Amnesty International, elle a visité donc plusieurs communautés mapuches, dont la communauté de Temucui. Elle a également visité les prisonniers politiques qui sont emprisonnés à Angol. Donc à Angol, où se trouve Jaime Huanchuyan, il y a José Huanchunao, il y a, je sais plus qui,
il y en a pas mal. Franchement, là, les prisons, ça
en fait
que moment,
ça... En ce moment, ça prend plus pas mal, en fait.
Et puis, clair. On peut voir qu'effectivement, en termes de nouvelles, cette visite n'a pas changé grand-chose, puisque... À la prison d'Angol, donc ce samedi-là, donc j'ai un groupe de gens de la communauté de Temucui se sont donc rendus à la prison d'Angol. Ouais. Et donc un adolescent de 13 ou 14 ans,
il a été
pris à part et interrogé, donc isolé, interrogé donc dans la prison. Par les carabiniers ou je ne sais qui.
Par la présence de ses parents, et en fait les carabiniers lui ont montré des photos, ils lui ont donné des noms, et en fait ils lui ont exigé de dire où se trouvaient ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils ont complètement traumatisé le gamin, quoi.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Enfin, c'est vraiment d'une banalité. Enfin, nous, donc, on a été, c'est dans cette communauté-là, donc dans la communauté Temucui, qu'on a passé 3 mois.
Voilà, parce que vous étiez parti faire un documentaire.
Exactement. Exactement. Donc, on a fait un documentaire donc sur la communauté Temucui principalement. Donc, on était aux côtés de Jorge Huanchuyan, de Jaime, qui à l'époque était en clandestinité, quoi. Et donc on a vu tout ça, et leur petit frère Juan, durant toute son enfance, adolescence, il se faisait régulièrement arrêter donc entre le chemin de l'école et de sa maison, parce qu'il y a quand même 2 heures de route. Il se faisait arrêter, embarquer dans un camion de carabiniers. Il se faisait interroger, voilà quoi, sur ses frères, où sont tes frères, voilà quoi, tu vois, avec menaces et tout ça, quoi.
Ouais, on est courante, hein. On est courante là-bas, c'est...
Et tout ça en totale impunité, quoi. Enfin, ouais. Parce qu'on, voilà, quoi, on parle de ça, on parle de crime et aussi d'impunité. Pour en revenir à Alex Lemoun, ce qui est insupportable, c'est premièrement qui s'est fait assassiner, mais le plus insupportable, c'est qu'on connaît l'assassin et qui, voilà, quoi. Il a absolument rien eu et il marche en toute impunité.
Ouais.
Donc on parle de crime et d'impunité.
On a l'impression qu'il y a une double justice.
Bah, non, mais surtout qu'ils sont mutés. Enfin, ces gens-là, ils sont gradés, ils obtiennent des bénéfices, tu vois, en faisant de tels actes.
Exactement. Et c'est important ce que tu dis quand tu parles de justice, pour comprendre pourquoi, en plus des aspects culturels, pourquoi est-ce que les Mapuches ne reconnaissent pas la justice chilienne? Parce que...
Parce qu'elle-même ne les reconnaît pas.
Ils perdent tous les procès, enfin ils se font arrêter. Alors peut-être qu'une fois ils vont se dire ok, je suis innocent, j'y vais, je vais voir. Je veux dire, tu te prends 5 ans une fois, la deuxième fois quand tu sors, t'y vas pas, quoi.
Ah mais c'est clair.
Donc.
Et en parlant, on va dire de justice, il y a eu quand même il y a quelque temps une bonne nouvelle en tout cas, puisque enfin. Entre guillemets, puisqu'on va quand même rappeler, il y a l'oncle, donc qui est l'autorité de la communauté, ou plutôt du LOF, donc l'oncle Avelino Meñaco, donc qui est le l'oncle de la communauté Parcuatcoña, donc qui est sorti, qui a été libéré, puisque le ministère public n'a pas, donc qui a utilisé tous les procédés. Dont ils pouvaient viser, donc entre autres les témoins sans visage. En fait, il n'a pas pu prouver la participation du Lonco Meñaco dans les faits qui lui étaient reprochés. Donc entre autres, il me semble que c'était l'incendie de cabane. C'est ça, oui.
Incendie de cabane et incendie d'un reporter aussi.
Ah
ouais.
Bon
ouais.
Et en fait, le ministère public demandait 10 ans et un jour, puisqu'il qualifiait ces incendies comme des incendies terroristes. Voilà. Donc en fait, ça faisait depuis quand même plus de 8 mois qu'il était emprisonné. Voilà. Et donc là, c'est depuis quelque temps. Là, c'était depuis le 12 ou le 13 novembre que Avelino Meniac donc a été libéré, faute de preuves, en tout cas dans sa participation à ces incendies.
C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas marrant en soi, mais c'est quand même assez significatif parce qu'on le libère pour faute de preuves.
Ouais,
et il s'est quand même fait arrêter donc sans preuve et 8 mois de prison préventive sans preuve. Ça paraît assez significatif.
Plus de 8 mois, en sachant que Long Comeniac, il a quand même une famille à sa charge, il a quand même toute une communauté aussi sous sa responsabilité. Et c'est aussi une façon d'affaiblir le mouvement Mapuche, puisque en enfermant les porte-paroles, les chefs. Les langues et tout ça, c'est vrai qu'après les communautés se retrouvent un peu démunies hein, sans leur référence, si on peut le dire comme ça quoi.
De toute manière c'est bien structuré à ce niveau-là, c'est pour ça que ce sont les porte-paroles la plupart qui sont emprisonnés, c'est rien que moins rien que de moins et de plus que des gens qui viennent ils viennent transmettre le message de toute une communauté de plein d'habitants en fait qui se réunissent pour dire que ça va pas et ce sont eux justement qui prennent des condamnations de 10 ans, 5 ans et voilà, comme le long qu'on sait que par Qualpichun ils l'ont pas laissé passer, ils l'ont pas laissé sortir du Chili, c'est pas pour rien, c'est parce qu'une autorité mapuche
surtout ça. comme long Qualpichun qui est quand même une figure aussi. Enfin, c'est vrai que de toute façon, là, l'État, c'est le maximum pour jouer ses billes. Hein. Mais en parlant de loi antiterroriste, et en tout cas, moi, je vais en finir là avec la partie info, c'était aussi pour informer qu'il y a eu que 3 jeunes ont été détenus sur la route 5, Sur. Donc, du coup, que le parquet a voulu faire appliquer la loi antiterroriste. Ils ont été accusés d'avoir lancé des bombes incendiaires sur la route de Temuco. Et pour le moment, attendez, parce que je regarde mes notes en même temps, mais en tout cas, j'ai des informations concernant deux de ces jeunes-là.
Donc, ouais, pour le moment, ils sont en prison.
En anthropologie à l'université catholique de Temuco, donc ils sont âgés de 21 et 26 ans. Et en fait, le ministère public a voulu faire appliquer la loi antiterroriste, sachant que le ministère de l'Intérieur a bien sûr appuyé la décision du parquet, puisque il a rappelé que ça faisait quand même depuis très longtemps, depuis 4 ans, qu'il n'avait pas appliqué la loi antiterroriste. Donc, comme ça fait trop longtemps, on va essayer de la réappliquer. Et du coup, ils lui font appliquer cette loi-là pour rappeler que la loi antiterroriste, en fait, permet d'emprisonner en tout cas les accusés dans des endroits spécifiques, qu'ils ont des moyens d'investigation spécifiques comme l'interception de registres de téléphone, là, de communication. Ils ont le moyen aussi de restreindre les visites.
Normalement, les remises de peine et la libération conditionnelle sont impossibles aussi, sous une loi antiterroriste.
Tout à fait. Et en plus, bon, il faut rappeler que cette loi, elle a été appliquée, en tout cas, donc, envers les deux longs, par Qualpichun et Aniceto Norin, qui ont été condamnés à 5 ans de prison pour menace terroriste, voilà, contre Juan Agustín Figueroa, donc qui était un juge, c'est ça ?
Voilà, un procureur et un latifondiste en même temps.
Voilà, donc eux, ils ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement.
Malheureusement, son terrain.
Et il y a eu aussi un autre grand cas où a été appliquée la loi antiterroriste. Il s'agit du procès Polo Kopizenko, donc où Il y a eu les frères Marileo, Patricia Troncoso, José Huenchunao et Juan Millacheo, donc, qui ont été condamnés à 10 ans et un jour pour incendie de terrain de la propriété de la Forestal Mininco, donc qui a été c'est un incendie qui a eu lieu en 2001. Voilà.
En tout cas, ce sont les porte-paroles là qu'on en parle.
Oui, qu'on parle souvent. Donc voilà. Patricia Troncos, c'est elle qui a mené pendant 112 jours, qui a mené la grève de la faim, donc qui a mené sa grève de la faim en prison d'Angol,
voilà. Qui maintenant elle est sortie dominicale.
Voilà, tout à fait. Et elle est dans un centre de travail en fait.
Ouais, voilà.
On va dire une prison où elle peut avoir un bout de terre, voilà. Il y a d'autres conditions de détention en tout cas. Voilà. Donc c'était un petit peu pour donner aussi cette mauvaise nouvelle qu'il y a des jeunes aussi étudiants qui sont accusés et que en effet l'application de la loi antiterroriste en tout cas est toujours effective, même si le gouvernement de Madame Bachelet s'était engagé à ne plus faire appliquer cette loi en tout cas pour tout ce qui concerne le mouvement Mapuche.
Voilà.
Flor la vida libre, espíritu del bien.
Toujours à l'écoute de 106.3 fréquence Paris Pluriel. Vous êtes allé l'émission Les Chroniques du Wal Mapuche. Le Wal Mapuche, c'est le territoire ancestral du peuple Mapuche, qui est ce peuple originaire du sud du Chili et de l'Argentine. Là, pour cette émission, on va continuer avec nos invités ici présents, qui sont Geoffrey Rossi. Et Christophe
Harrison.
Merci. Bon, en tout cas, comme on a dit tout à l'heure, vous étiez parti là-bas au Walma pour faire un documentaire.
Exactement. Ouais.
Donc. Vas-y, si tu veux te dire un peu plus.
Voilà, pour donner un peu le contexte, on est parti en décembre 2007, donc il y a à peu près un an. On est parti 6 mois donc, en Amérique du Sud,
ouais,
avec le projet de faire un documentaire au départ sur les luttes en général, donc que ça touche les piqueteros de Buenos Aires, ou voilà quoi, pas mal de choses qui se passent en Bolivie. Et donc, si tu veux, donc on est passé donc par le Chili,
ouais,
et on a atterri donc dans la communauté de Temucuicui, où on souhaitait donc faire le film sur la situation de la communauté.
Ouais.
Et là-bas, effectivement, on a rencontré pas mal de soucis quoi, avec les autorités, la police et tout ça. Quoi.
Mmh. Ouais, pour expliciter un petit peu la démarche donc, par rapport... Voilà, enfin, dans quel cadre on est parti pour faire ce documentaire. Donc nous, on était présents donc, à partir de décembre 2007 en Amérique du Sud. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le 3 janvier, il y a donc Mathias Catrillo qui est assassiné. Donc un étudiant mapuche. Donc nous, voilà, parce qu'on s'intéressait à ça, on est au courant qu'il se passe beaucoup de choses au Chili. Donc on va là-bas à la base. C'est pour essayer de rencontrer les gens dans une démarche documentaire. Ça veut dire aller vivre dans les communautés, aller rencontrer une réalité, un peuple en lutte, et essayer d'aller directement au centre, au cœur du problème. Donc aller documenter, aller filmer la réalité dans les communautés mapuchées.
Mmh. Oui. Et vous êtes resté combien de temps donc sur place?
Oui, Tatiana, elle est restée avec nous.
D'accord.
Ouais. Ah oui,
donc,
pardon.
C'était
pour savoir, vous êtes resté combien de temps sur place à peu près?
Alors 3 mois.
D'accord.
3 mois, donc principalement dans la communauté de Temucuicui.
D'accord.
Et donc après, disons, on a aussi rencontré l'autre communauté avec laquelle on a entretenu pas mal de contacts, c'est la communauté Juan Payalef,
oui,
dont la Lonco, donc Juana Calfunao, est en prison.
Oui, est en prison.
Son mari, qui est le Werken, donc le porte-parole de la communauté, est aussi en prison. Donc on a pu aller les rencontrer en prison, enfin discuter avec eux. Moi, j'ai aussi vécu avec ses fils. Donc voilà, c'est principalement à Temucuicui où on a principalement vécu, et à côté... Et à côté, Juan Payalef et d'autres communautés et d'autres gens, parce qu'on était sur place vraiment pour aller rencontrer les gens. Et donc, on a essayé, avec le temps qu'on a passé sur place, d'aller au cœur du problème.
D'accord. Et donc, vous êtes resté sur place, c'est-à-dire vous êtes resté dans la communauté, hébergé par les gens qui vivaient là.
Exactement. On a vraiment vécu avec eux. On avait un toit, on mangeait avec eux. On a vraiment, on a été accueillis... de manière assez exceptionnelle, quoi. Non, c'était humainement, c'était vraiment très très fort, quoi.
Oui, j'imagine.
Ouais. J'ai envie de dire, on a eu la chance d'être accueillis, parce que avant que par nous-mêmes, donc on se rende dans les communautés, on a presque eu peur, parce qu'on nous parlait de gens qui étaient un petit peu rustres, qui étaient terroristes, la communauté de Temucuicui. Même si on avait notre propre idée sur le sujet, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va? Enfin, qu'est-ce qu'on va rencontrer? On arrive là-bas, on parle à des gens qui sont ouverts, qui nous ont reçus pendant 3 mois sans forcément au début nous connaître, et avec qui on a vécu une expérience extraordinaire. Enfin, ça fait beaucoup réfléchir quand même.
Ouais. Mais après vous répondez ou pas, mais vous y êtes allé comme ça?
On y allait comme ça.
On y allait, enfin concrètement, on y allait par nous-mêmes. C'était une démarche personnelle. On n'était pas, on était financé par personne. À la base, c'était un projet de film documentaire. Mm-hmm. Et donc voilà. Et quand on arrive au Chili, on avait cette volonté d'aller rencontrer les gens. Mm-hmm. Et c'est vrai que, bah, comme je l'ai dit, on a eu la chance de se faire accueillir. On arrive à un moment où il se passait beaucoup de choses.
Ouais, bah oui.
Et voilà, donc il y avait tout un contexte autour. C'était assez chargé. Et donc voilà. Et donc bon an mal an, ben on va dire que l'expérience a pris le pas et donc on est resté aussi à vivre dans les communautés et à essayer au maximum de documenter cette réalité.
D'accord, donc vous êtes resté sur place 3 mois et après vous êtes allé dans un autre pays d'Amérique latine ou...
Non, parce qu'en fait le voyage à la base donc, devait être sur 6 mois.
Ouais.
Et on n'avait jamais prévu de rester aussi longtemps au Chili. Enfin, on voulait vraiment aller vivre dans les communautés et voir un peu ce qui se passait. Et c'est vrai que l'expérience a un peu pris le pas sur tout. D'abord parce que on a pu se faire accueillir. Ensuite parce qu'on s'est fait arrêter. Mm-hmm. Il s'est passé quantité de choses. On a eu beaucoup de soucis. Ce qui fait que par rapport à notre documentaire et à ce qu'on voulait faire, on était, j'ai envie de dire, tous ces pas, on a envie de faire un documentaire sur ça. On n'avait pas besoin d'aller plus loin à ce moment-là.
D'accord, donc vous êtes principalement resté au Chili.
Exactement. Ouais.
Et après, vous avez filmé quoi là-bas? C'était quoi le souci de vos histoires? Qu'est-ce que vous avez filmé?
Disons qu'on a été témoin d'un incendie sur la propriété de René Urban. Donc, pour donner un petit peu le contexte, la communauté de Temucuicui actuellement donc, revendique ses terres ancestrales qui juridiquement et matériellement sont la propriété de René Urban qui est le président des agriculteurs de la nouvelle région du Chili, donc politiquement assez puissant. Mm-hmm. Il a réussi à faire enfermer bon nombre de membres de la communauté, donc de les mettre en prison. Il a obtenu aussi la protection judiciaire de son terrain, donc il y a environ une cinquantaine de carabineros qui protègent son terrain 24 heures sur 24. Et donc, on était assez loin en train de faire une interview. Quand au loin, on a vu de la fumée. On est allé filmer ça d'un petit peu plus près. Et donc, on s'est fait interpeller par les carabineros. Mmh. Et le fils d'Urban, qui nous ont donc accusé de faire partie de l'État, d'avoir provoqué cet incendie-là. On leur a dit qu'absolument pas, qu'on était témoin de ça. Ils ont commencé à accuser les Mapuches et tout ça. Ils n'ont pas arrêté à ce moment-là. Mm. Mais 3 jours après, donc quand on est descendu à la ville de Kolipuy, on s'est fait arrêter par une quinzaine de carabines. Donc c'était en même temps moitié carabineros et moitié police d'investigation qui était en civil. Donc on a passé 10 heures au commissariat, se faire interroger sur ce qui s'est passé, on demandait un interprète, ils ont refusé, ils nous ont plus ou moins fait comprendre que si on voulait pas passer la nuit en prison, fallait faire ce qu'ils nous demandaient.
Ouais.
Et après ça, donc on a été libérés au bout de 10 heures et donc on a été jugé pour infraction à la loi étrangère. Parce qu'on troublait l'ordre public et parce qu'on pouvait être néfaste pour les intérêts du Chili.
Pour faire le lien, cette fameuse loi étrangère, comme la loi antiterroriste, c'est malheureusement l'héritage qu'a laissé la dictature de Pinochet au Chili. Donc c'est des lois qui datent de la dictature et qui sont toujours en application. Et très concrètement, l'idée de cette loi, c'est que toute personne étrangère sur le territoire chilien peut-être considérée comme un danger pour la sécurité de l'État dès lors qu'elle a la moindre activité politique. Et donc, ensuite, c'est répression, expulsion et tout ce qui va derrière.
C'est intéressant parce que ça veut dire, indirectement, ça veut dire qu'ils reconnaissent que le conflit Mapuche est d'ordre politique. Donc ça serait bon. Mais finalement, on n'a pas été expulsé. Donc quand même avec une astreinte par rapport à notre comportement et à notre travail et tout ça, en gros se tenir à carreau et arrêter de filmer, on a pu continuer malgré tout. C'est vrai que c'était un petit peu plus dur, quoi, mais voilà quoi.
Mais sinon, non, dans le documentaire, ce qui était important, c'était de, ben voilà, essayer de partager, essayer de comprendre, quoi. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Mapuches choisissent la clandestinité, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se présenter à la justice.
Ouais, tu es parti voir leur réalité.
Exactement. Exactement.
C'est... À travers leur propre vision des choses, comment est-ce qu'ils vivent ça au quotidien. Donc, tu as dû beaucoup travailler aussi sur les champs, non ?
On sortait les bêtes. Voilà,
c'était à quelle époque, en fait ?
C'était mars, avril, mai. Mmh. Donc, ouais. On sortait les bêtes, on mettait en place des barrières, des trucs.
Ouais,
et concrètement, vous avez filmé, vous avez interviewé les gens là-bas de la communauté, vous avez parlé avec qui ?
Alors, pour encore une fois, pour mettre un petit peu dans le contexte, quand on débarque à Temukuikui, donc comme Christophe l'a dit, c'est une zone qui est militarisée, et le mot n'est pas trop fort, donc c'est une zone qui est 24 heures sur 24. Il y a une présence des forces spéciales des Carabineros. Il y a, je sais pas, en nombre, peut-être une vingtaine de Carabineros, en fait. Voilà, enfin, t'as des roulements, ils sont là sur place tout le temps, ils surveillent, t'as une caméra. Dans la communauté même, il y a, voilà, enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais comme ça fait quelques années qu'elle lutte, il y a pas mal de personnes qui ont été blessées par balles. Je pense qu'il y a une trentaine de pennies de la communauté au moins qu'on fait un détour par la prison. Au moment où même nous on y était, il y avait des clandestins, dont Raim et Wen Chuyan qui se retrouvent maintenant en prison. Donc nous, on débarque un petit peu au milieu de tout ça. Voilà, avec notre caméra, en essayant d'abord de développer un rapport humain et de gagner la confiance des gens, parce qu'évidemment quand on débarque au début, c'est pas si facile que ça. Et ensuite, nous on a principalement vécu avec la famille Wen Chuyan, donc ils sont 7 frères, dont le grand frère Rolrey et le Werken de la communauté. Donc le Werken, c'est le porte-parole. Et disons, voilà, on a plutôt gravité autour de cette famille. Donc il y avait 3 clandestins à ce moment-là sur les 7 frères, Rolrey qui est le Werken. Et ensuite, en rencontrant d'autres gens, on a pu aller rencontrer, par exemple, je me rappelle une fois, on s'est fait inviter chez un ancien de la communauté qui habitait beaucoup plus loin, enfin dans une maison qui était beaucoup plus reculée par rapport au reste. Ensuite, à peu près un mois et demi après notre arrivée, on a pu participer à un Guillatoun. Un Guillatoun, c'est l'événement religieux de la communauté, en fait. Enfin, toute la communauté se retrouve, il y a des cérémonies religieuses. Et donc, comme on était sur place à ce moment-là, on a pu s'y rendre, y assister et y participer. Et voilà, enfin, un peu ce qu'on a pu faire dans la communauté.
Vous avez rencontré le propriétaire des terrains en question, justement ?
On a rencontré René Urban lors de cet incendie. Parce que, pour situer un petit peu géographiquement, les terres de René Urban et la communauté sont séparées juste par un chemin de terre, mais qui est très symbolique, parce que en fait, enfin, les Carabineros ils siègent à ce niveau-là, et les Mapuches en fait ne peuvent pas mettre un pied sur la terre d'Urban, sinon ils se font directement arrêter et embarquer.
Ils servent de frontière, en gros, quoi, les Carabineros.
Exactement, exactement. En fait, ils sont les Mapuches, enfin, sont presque, voilà, voilà, exactement. Ils sont au moins encerclés, sinon parqués. C'est une idée bizarre de la liberté, mais bon, bref. Et donc, ce fameux chemin, quand nous, on a filmé l'incendie sur les terres d'Urban, on était assez conscients que si on mettait, nous aussi, un pied sur les terres, pareil, on se faisait embarquer directement. Donc, on a bien fait attention de rester sur les terres. Par contre, René Urban, donc, qui, lors de l'incendie, a débarqué, il est rentré, lui, avec des personnes armées. Alors après, est-ce que c'était ses gardes personnels ? Est-ce que c'était des Carabineros ? En tout cas, ils sont rentrés sur le territoire de la communauté pour venir nous parler et nous interpeller. En fait, on l'a rencontré à ce moment-là. Et voilà, on l'a rencontré dans des conditions spéciales. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on n'a jamais voulu, dans notre démarche documentaire, si je peux dire, voilà, aller là-bas et donner... écouter 5 minutes à Mapuche, 5 minutes René Urban, aller voir un juge. Non, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment filmer un conflit d'un point de vue que personne ne connaît, celui des...
Donc vous avez clairement pris parti pour les Mapuche quand vous avez rencontré Urban.
On n'a pas pris parti, mais disons qu'on a rencontré Ruban. Voilà, enfin, on n'est pas allé lui parler en ami, si je peux dire. On n'était pas forcément là en ennemi, mais voilà, on l'a rencontré dans, voilà, ben dans
la banalité de l'échange, quoi.
Exactement. Et dans, enfin, il avait son rôle. Enfin, voilà, enfin, comme les connaissent, le Mapuche. Voilà, on l'a rencontré. Ben voilà, il nous a accusé. Il nous a, voilà, il est venu avec des hommes armés. Il n'était pas là pour dialoguer. Voilà, il était là pour s'imposer. Et surtout, il est entré en toute impunité sur le territoire de la communauté, sous les yeux des carabineros qui étaient derrière, avec des hommes en armes. Et ça, enfin, ça
n'a. Dans le cas inverse, ça serait pas passé.
Ça n'a strictement gêné personne. Et si l'inverse se passait, sinon on avait mis un pied, voilà, enfin, c'était directement. Ouais. Voilà.
Bah ouais.
Vous avez pu l'interroger quand même. Enfin, vous avez des images de.
On a des images et je pense que c'est pour ces images qu'on a été arrêté. Je pense que quand les carabineros nous ont arrêtés, c'est les images de l'incendie qu'ils cherchaient. Après, enfin, je sais pas s'ils ont pas été très malins, mais donc évidemment, nous ensuite, quand on s'est promené en ville, on n'avait pas ces images sur nous. Ils ont saisi cassettes, caméras et passeports le jour où on s'est fait arrêter. On a pu récupérer la caméra ensuite, mais pas les cassettes qu'on avait sur nous. Il y avait juste la cassette du jour même.
Que votre arrestation, en fait, elle s'est passée combien de temps après?
Trois jours après. Dès qu'on a mis les pieds hors de la communauté. Parce que les carabineros ne seraient pas rentrés, je pense, dans la communauté pour
vous arrêter.
Ah oui, d'accord. Ouais. En fait,
donc, ils ont attendu que vous sortiez de la communauté. Ben, enfin, en tout cas, que. Enfin, et qu'est-ce qu'ils ont fait?
C'est même. Je pense que c'est même pire que ça. Parce que, donc, on s'est rendu à ville à Coipuy. Ouais. Et on s'est fait arrêter une heure après avoir croisé le fils de René Urban, Hector Urban.
D'accord.
Et dès qu'il nous a croisés, enfin voilà, il y a eu un échange de regards et il a pris son téléphone et donc je suis à peu près certain que, enfin, c'est quasiment sur son ordre qu'on s'est fait arrêter.
Mais parce qu'en plus, enfin bon, je recherchais un peu, mais il semblerait, en tout cas, de ce que moi j'ai pu en lire sur les sites d'information alternatifs, c'était que vous aviez accompagné Jaime Wenchuyan à signer.
Rolre Wenchuyan, le Werken.
Je ne sais plus qui c'est que vous accompagnez, ouais. À signer. Enfin, il devait signer une fois par semaine ou quelque chose comme ça, non?
Oui, oui, ouais, c'est ça. En fait, on accompagnait Rolre Wenchuyan qui doit se rendre tous les mois ou tous les deux
tous
semaines.
Les 15 jours, ouais.
Tous les 15 jours, en fait, pour signer à la fiscalité dans le cadre d'une procédure judiciaire.
D'accord, donc vous êtes quand même rentré dans l'institution policière.
C'est la fiscalité, judiciaire. Hein, oui. Judiciaire, ouais, c'est la fiscalité. C'était pas un commissariat
ou
c'était
pas. D'accord, ok. Donc c'était pas dans le commissariat.
Non. On s'est fait arrêter dans la rue. Enfin, on prenait.
On déjeunait tout simplement.
Voilà, on était en train de déjeuner. Débarque un fourgon avec, je sais pas, peut-être 5 carabineros. Et Rolleray, je pense qu'avait senti le coup, il nous dit, je le sens mal. À mon avis, c'est, je sais pas, il va se passer quelque chose. Donc là, les carabineros rentrent dans le bar. Je ne sais pas si c'est par courtoisie, mais avant de venir nous contrôler, ils prennent quand même le temps de je sais pas, ils simulent un contrôle d'identité à une autre table dans le bar. Je ne sais pas, il devait y avoir 20 tables. Ils font quand même l'effort, je ne sais pas, de contrôler. Et ensuite, hop, ils se rapprochent vers nous.
Soi-disant
contrôle d'identité. Enfin, moi, sur le moment, j'avais pas mes papiers. Donc, ils en ont profité pour. Voilà, c'était l'excuse pour m'embarquer. Enfin, Christophe avait ses papiers. Donc, voilà, enfin, après, ils l'ont embarqué aussi. Et, voilà, et ensuite, c'était parti, quoi. Après, ensuite, sur ça, police d'investigation. On s'est fait transférer à Angol, qui était une ville où on n'avait jamais été. Enfin, on était dans une voiture banalisée avec des gens en civil. Et voilà, on est parti à Angol, je sais pas, c'était à une heure de route. Je me rappelle, on roulait sur une petite nationale à 150 km/h.
Là, on savait pas où est-ce qu'on allait, ouais.
Ouais. On était dans une voiture banalisée, et on s'est regardé, enfin, on s'est dit, enfin, pour un contrôle d'identité, ça fait quand même beaucoup, quoi.
C'est sûr. C'est surtout clair. Dans une voiture banalisée, ouais. Ils peuvent vous emmener n'importe où.
Exactement.
Vous avez dû flipper là sur le moment même, non?
On n'a pas eu peur, mais on s'est posé beaucoup de questions. On n'a pas. Comment dire? Non, j'ai pas cru qu'ils allaient nous. Voilà, nous mettre une balle ou nous mettre sur le côté, quoi. Ouais. Mais ouais, tu te dis, on s'est quand même dit que voilà quoi, fallait être solide mentalement parce que ça risquait de durer un petit bout de temps et que c'était pas pour tout, mais surtout pas pour un contrôle d'identité qu'on était là, quoi.
Qu'on se rend compte très clairement, c'est que enfin là on est devenu des jouets, quoi. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Ça fait déjà 2 heures qu'on est là, qu'ils nous racontent des conneries, qu'ils nous mènent en bateau. Là, voilà, enfin, ils nous disent, on part à Angol, enfin, nous, Angol, on sait pas où, ils nous emmènent.
les carabineros nous remettent à la police d'investigation sans même nous expliquer pourquoi. Enfin voilà, et puis là c'est parti. Et là on se dit quand même, putain.
C'est vrai que le ouais, le côté, ce qui nous, bah, ce que nous décrivait en fait les membres de la communauté, ce sentiment d'impuissance face à la justice et à la police, j'ai vraiment ressenti parce que moi qui suis arrivé avec mes bons principes de droit, de procédure, vous n'avez pas le droit de faire ça, on a ouais. besoin d'inter. J'ai vite compris que je pouvais m'asseoir dessus
bah oui.
et que si je voulais être libre, si je voulais pas être en prison, si je voulais pas passer la nuit en prison, je devais faire ce qu'ils me disaient de faire. Ouais, voilà quoi.
Ah non, mais pouvais, et encore là, ils t'ont demandé, tu vois, mais d'habitude, t'aurais eu des papiers locaux. Ils te demandent même pas.
Carrément, c'est ce que j'ai dit. Je pense que là, voilà quoi, on a eu de la chance. Enfin, si on était mapuché, clairement. On était arrêté et pas que, voilà qu'on était arrêté pour incendie terroriste, pas en tant que témoin mais en tant qu'auteur.
Ouais.
Et nos droits, on pouvait vraiment voilà quoi, c'était fini quoi, c'est ouais. sûr, c'était fini.
Ouais.
Parce que c'est voilà, c'est un truc qui est dans toute cette dans toute la criminalisation de j'irais de la lutte mapuche, un truc qui est super important, c'est qu'ils prennent n'importe qui. Il y a un incendie, ils prennent n'importe qui.
Surtout les dirigeants, quoi.
Surtout les dirigeants, ouais, c'est sûr.
Enfin, pour moi, c'est un petit peu plus que la simple criminalisation de la lutte mapuche. C'est la criminalisation de tous ceux qui pourraient témoigner, d'une manière ou d'une autre, de la solidarité envers le peuple mapuche. On parlait tout à l'heure des étudiants qui sont fait arrêter, qui sont le coup de la loi antiterroriste. Enfin, nous, on était sur place pour faire un film, voilà, pour faire un documentaire. On n'était pas armés, enfin, un mois après nous, c'est passé la même histoire pour deux Italiens. Ils se sont fait expulser. Il y a eu le cas d'Elena Varela. Et enfin, tout ça, c'était des gens qui étaient là pour filmer, pour documenter une réalité. C'est-à-dire, c'était même pas des gens qui luttaient. C'était pas des Mapuche. Donc, toutes les personnes qui veulent essayer à leur manière de solidariser. Voilà. Enfin, je pense que le but est très clair. Et enfin, je me rappelle d'une discussion, enfin, assez un petit peu surréaliste que j'ai pu avoir avec je sais pas si c'était un officier de la police d'investigation, quoi. Et il nous dit tout simplement, il nous regarde en face comme ça, il nous dit, mais voilà, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est qu'au Chili, on lave notre linge sale en famille. Ça ne vous regarde pas, voilà, enfin, on ne vous veut pas au milieu, ce n'est pas vos histoires. Ah ouais. Et là, enfin, sur le coup, je me dis, est-ce que je parle avec un mec qui fait partie d'une certaine mafia, ou enfin, voilà, est-ce que ce mec, c'est le représentant de l'ordre et de la justice, enfin, ça fait réfléchir, c'est... Et voilà, et très clairement, à ce moment-là, le pseudo-chantage, ce qu'ils nous ont fait comprendre, c'est que, très bien, si vous vous tenez bien, on vous rendra peut-être les passeports, mais voilà, on veut plus vous voir au milieu, donc vous sortez du pays et tout se passera bien, quoi.
Mais c'est aussi le genre d'attitude, en tout cas, qui fait écho à quelles étaient aussi les habitudes militaires pendant qu'il y avait la dictature, hein.
Ah oui.
Tout ce qui se passait à l'intérieur ne se savait pas à l'extérieur. En tout cas, c'était la devise de M. Pinochet, quoi. C'était qu'à l'extérieur, tout va bien, il est en total, parfait accord avec tout ce qui est des droits humains, mais combien de disparus, combien de tués, et parce que c'est un vieil héritage aussi de laver son linge sale en famille, quoi. Et qu'il ne faut pas que ça se sache, surtout pas à l'extérieur.
Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la yola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la yola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 à l'émission Chronique du Wall Mapuche. On est en compagnie de Christophe et de son ami dont j'ai oublié le prénom.
Geoffrey,
voilà, excusez-moi. Pour rappeler également que si vous voulez plus d'informations concernant la Ligue du Peuple Mapuche, vous pouvez toujours aller sur Internet et rechercher alors en français sur http://mapuche.ca.fr et également www.mapuche.org. Vous pouvez également nous écouter sur Internet sur www.rfcp.net tous les quatrièmes lundis du mois de 19h à 20h30. Rediffusé le lendemain de 12h30 à 14h. Voilà, et donc il y avait donc Geoffrey et Christophe qui nous racontaient un peu leurs aventures et mes aventures sur le territoire du Wallmapu. Mais en tout cas, ces péripéties n'ont pas, vraisemblablement, ne vous ont pas
empêché de continuer.
Au contraire, je pense que voilà, enfin, je pense pas que ce qui nous est arrivé soit voilà, je pense que ça se passe comme ça et on a eu la chance voilà d'être témoin, parce que dans cette histoire, je le rappelle bien, on n'était que témoin, les vraies victimes, les vrais acteurs de la lutte, c'est d'abord le peuple mapuche. Voilà, enfin, on a eu la chance d'être témoin de la manière dont se passent les choses aussi. Donc au contraire. C'est en plus, enfin, quand toute cette histoire est arrivée, on a vraiment senti de la part de la communauté de Temucucuy en particulier et des Mapuches en général, enfin, un vrai appui. On s'est pas senti seul, voilà, ils ont vraiment appuyé. Et enfin, je pense que ça nous a au contraire motivé à continuer. On s'est dit, ben voilà, on est sur la bonne voie. Si de manière ou d'une autre, on cherche à montrer une réalité qui dérange l'État chilien, on s'est regardé, on s'est dit, ben voilà, il faut qu'il continue, quoi. Il faut continuer.
Ouais, et ce qui est intéressant aussi, c'est que y a des personnes, en tout cas, qui sont quelque part extérieures à la lutte du peuple mapuche, et comme vous dites, témoins, qui puissent aussi justement apporter leur témoignage à l'extérieur, parce que c'est ce qui manque également, hein, parce que bon, tant qu'on est dedans, forcément, oui, on est mapuche, et donc on va être entre guillemets victime, mais c'est aussi bien que, enfin, entre guillemets bien. C'est vite dit, enfin, je sais pas si je vous fais comprendre, mais en tout cas que ça puisse être aussi rapporté à l'extérieur, quoi. Mais du coup, ce documentaire, alors, ça en est où?
Eh ben alors, donc il faut d'abord commencer par dire qu'on n'a pas filmé que au Chili, parce qu'avant le Chili, on a fait quand même d'autres pays, le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Mm-hmm. Et donc, on avait ramené en tout à peu près 60 heures d'images, dont 30 spécifiquement sur le conflit mapuche. Et donc on est rentré, on voulait d'abord quand même, enfin, faire sortir des petites vidéos, des interviews de choses et de gens qu'on avait pu croiser avant le Chili. Et donc là, ça, récemment, on a vraiment commencé le montage sur le documentaire.
Oui, parce que j'imagine que c'est un long travail. Du coup.
C'est un long travail. C'est un très long travail, mais je pense que c'est pas l'envie qui manque. Bon voilà, après comme on est voilà comme c'est une démarche personnelle et qu'on est entièrement indépendant, c'est vrai que tout ce qui est matériel, enfin on s'est autofinancé d'abord enfin pour partir, pour vivre sur place, tout ce qui était la caméra. Et là dernièrement, on a pu faire l'acquisition d'un ordinateur voilà enfin pour faire du montage correctement et donc la situation est un petit peu débloquée et en ce moment on est en plein montage.
D'accord, et vous êtes encore en contact avec la communauté de là-bas, comment ça se passe ?
On est encore en contact avec la communauté avec donc notamment Lower Ken, Rolfe Wenchuyan. Mais enfin plus largement qu'avec la communauté, enfin donc avec des personnes de l'autre communauté, Juan Payalef, avec des gens qui sur place parce que comme il nous arrivait beaucoup d'aventures, voilà, enfin des gens qui ont solidarisé avec nous. Et c'est vrai que comme on a passé que 3 mois au Chili, en soi c'est pas très long, mais c'était tellement intense qu'on a vraiment enfin noué des relations qui sont humainement fortes et qui de façon enfin on est encore en contact avec ces gens et je suis sûr enfin que ça va continuer.
D'accord. Et ce documentaire, finalement, enfin, qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce que c'est vraiment... qu'est-ce que vous comptez en faire ? C'est un peu ma question.
Ce qu'on compte en faire, on s'interdit encore un peu d'y penser exactement. On a d'abord envie de le finir. Ouais. Mais une chose est sûre, on compte le projeter en France, le plus possible, à travers... les milieux alternatifs, les associations. On compte aussi le projeter au Chili. Donc au minimum, retourner à la communauté et faire une projection à l'intérieur de la communauté pour montrer ce qu'on a fait. Et après, si on parle... après, voilà, quoi, si y a possibilité de le faire passer dans des festivals de cinéma, c'est vrai que ça serait bien aussi, quoi.
D'accord. Mais il n'y a pas une volonté, par exemple, de voir sur des moyens de diffusion comme la télé.
On n'est pas trop télé, quand même.
Alors voilà, c'est assez important d'en parler. Enfin, c'est vrai qu'on s'est inscrit dans une démarche documentaire et j'espère que ça va ressortir dans ce film. On n'a rien contre le passé à la télévision. Mais on refuse tout formatage, voilà. Enfin, je veux dire, on a envie d'être le plus honnête avec ce qu'on a pu voir et vivre sur place. Mm-hmm. Et voilà, et j'ai pas envie que, voilà, enfin, pour le rendre entre guillemets diffusable, on soit amené je veux qu'on livre un film fini, que nous on en soit satisfait, qu'il rende témoignage. Et ensuite, s'il peut passer à la télévision, si ça intéresse des gens, évidemment. Pour voir un petit peu plus long terme. J'espère surtout que pour, dans notre cas concret, on puisse utiliser ça un peu comme une carte de visite. Voilà, en allant voir des gens que ça peut intéresser, en leur disant voilà, c'est ce que nous on a fait avec nos propres moyens. Mais malheureusement, on était limité dans le temps. On n'a pas pu faire tout ce qu'on a voulu parce que moi je pense que le sujet Mapuche, c'est on peut y passer des années et des années, un documentaire, à faire un vrai travail d'investigation vidéo et créer une relation de confiance avec les gens. Je pense que ça peut prendre du temps. Donc dans l'idéal, peut-être essayer d'utiliser ça comme une carte de visite pour repartir avec plus de temps et plus de moyens et continuer le travail documentaire.
D'accord. C'est très intéressant. Et il y a une possibilité de, par exemple, s'il y a des auditeurs qui souhaitent avoir plus d'informations
Comment ça Répète ta question, s'il te plaît, Tatiana.
Ah oui, que je disais que s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par votre expérience et qui souhaitent avoir plus, prendre contact peut-être avec vous ou peut-être à travers la radio d'ailleurs, s'ils peuvent contacter la radio pour s'ils veulent avoir plus d'informations sur ce que vous avez vécu ou si à un moment donné ils veulent voir ce documentaire ou savoir comment se procurer ce documentaire, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce qu'ils vous contactent directement ou est-ce qu'ils passent par la radio ?
Bah, je pense qu'ils pourront nous contacter déjà par la radio, mais sinon, en fait, pendant le voyage, on tenait un blog. Et quand on est rentré, on a refait un autre blog sur lequel, d'ailleurs, on peut voir en ce moment les vidéos qu'on a fait avant le Chili, donc Argentine, Brésil, Uruguay, ce qu'on a pu faire avant. D'accord. Et donc, l'adresse de ce blog, c'est première ligne, première avec un S et ligne avec un S, premièreligne.blogspot.com.
D'accord.
Et à travers ça, on peut rentrer en contact avec nous et rester informé de un peu ce qu'on fait en ce moment et de l'évolution du montage.
D'accord.
Ok, c'est cool. Bon, en tout cas, si vous voulez également plus d'informations, comme Tatiana l'a dit, c'est mapuche.free.fr ou sinon mapuche.org pour tout ce qui est page internet en français. Et sinon, vous avez tout ce qui est espagnol,
RedChem. Mapuche sur
voilà,
un moteur de recherche.
Voilà, c'est clair. Vous tapez Mapuche, vous avez pas mal d'informations. Bon, en tout cas, merci. Geoffrey, ah si, ouais, tu vas rajouter un petit truc.
Toute dernière petite chose à rajouter pour tous les Mapuche qui nous écoutent et tous les gens qui solidarisent avec leur lutte, j'aimerais simplement dire Marichewa.
Marichewa.
Marichewa. Eh ouais, 10 fois on nous vaincront. Voilà.
Au moins.
Au moins, au moins, c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour cette invitation.
Merci à vous.
Si jamais vous voulez repasser, c'est une fois par mois, il n'y a pas de problème, les portes sont ouvertes.
Avec plaisir.
Et merci Sidonie également.
De rien.
Et merci Tatiana et aussi par téléphone.
Ouais, bah, la prochaine fois, j'espère que ce sera physiquement. Mais bon, les conditions familiales font que, il n'y a pas le choix, mais c'est pas grave, on reste quand même là présent pour animer cette émission de radio qui est importante quand même.
Bien sûr. Et vous pouvez la réécouter demain à partir de 12h30. Et voilà, en tout cas, on se dit
à dans un mois.
Dans un mois, exactement. Peut-être ce sera pour les périodes de Noël.
On verra.
Ah, ce sera surprise. On verra si Père Noël, on va interviewer le Père Noël si il est parti du Walmart. Bon, merci à vous, merci pour l'écoute et je vous laisse avec la suite des programmes et à la prochaine. Et Marichewa.
Marichewa.
Marichewa.